Sud Radio, Olivier Monsens,
Ronan Châtelier,
C'est tendance.
Bonsoir. Parfois, les tendances se font nuance entre gris clair et gris foncé, sont un hommage à nos actes manqués ou nous donnent envie de les envoyer balader et de clamer « Je marche seul ».
Oui, aujourd'hui, c'est chante avec les tendances et souvenirs. Souvenirs qu'on a pu avoir de tous ces premiers fleurs, t'es et moi amoureux sur du Jean-Jacques Goldman. Bienvenue chez nous de 19 à 20h comme chaque soir et tout de suite, le sommaire.
Sud Radio.
Sud Radio. Olivier Monsens,
Ronan Châtelier,
c'est tendance.
C'est tendance.
Une tendance absence, absence insupportable pour beaucoup aujourd'hui, celle de Jean-Jacques Goldman dont la retraite excite les fans, enfin retraite. Et pour nous en parler, quelqu'un qui le connaît particulièrement bien, le journaliste et auteur Fred Hidalgo qui publie Goldman Confidentiel aux éditions de l'Archipel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous le connaissez toujours aussi bien, enfin il est parti, il a traversé la Manche, alors...
Oui, mais je vous rassure, il revient régulièrement.
Il revient, alors plutôt à Marseille ou à Paris, parce qu'il était, il a été longtemps à Marseille quand même.
Oui. Oui, il vit à Marseille depuis une bonne dizaine d'années. Là, il est revenu pour les fêtes, par exemple, entre les fêtes, il était chez lui à Marseille.
Ouais. Vous avez réveillonné ensemble ?
Vous avez le menu du réveillon, une exclusivité.
Il y avait quoi à table ce jour-là ? Fred Hidalgo, journaliste, essayiste, biographe devant l'éternel, a beau en connaître un rayon sur tout, il sera tout de même soumis à notre quiz où les plus grands esprits se sont déjà rétamés. Et également au menu, bien sûr, nos fringales finales.
Écrite par Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion, elle décrocherait un disque de diamant. Quoi donc ? No Dingo News.
Olivier.
C'est dingue comme la structure capillaire de l'être humain inspire auteurs de films et de comédies musicales. Nous avions déjà eu le long métrage Hairspray, lac capillaire en français. Hairspray dont je recommande la version originale signée John Waters en 1988.
Ah, pas L'Oréal.
Ah non, non. Et dont le premier rôle fut généreusement incarné par son acteur fétiche, divine, irrésistible travelot assumant fièrement sa surcharge pondérale.
Could you turn that racket down? I'm trying to iron in here.
Ça, c'est divine quand elle repasse, j'adore. Hairspray qui fut ensuite l'objet d'un remake et d'une comédie musicale à Broadway. Et voilà qu'une autre comédie musicale suit de près les ondulations de notre chevelure, Grease, à l'affiche de Mogador en septembre prochain, nous annonce-t-on. Grease qui ici signifie brillantine, dont la première version fut jouée à New York en 1972, avant, phénomène inverse de Hairspray, d'inspirer un film inoubliable évidemment mené par le duo formé par Olivia Newton-John et John Travolta.
I got chills, they're multiplying, and I'm losing control.
L'histoire se déroule en 1959 dans un lycée de Chicago et raconte les aventures de Sandy, nouvel élève, et de son amour d'été, un jeune chef de gang. Une comédie portée par un tube, You Are the One That I Want, adaptée peu après par Sim et Patrick Topalov dans Où est ma chemise grise, dont je vous épargne un extrait, rassurez-vous. Enfin non, je ne vous en épargne pas finalement.
Où la chemise ? Où la chemise ?
Oui, ça faisait mal. Bref, ouais. On attend avec impatience les comédies musicales Juste une mise en pli ou Bigodi chauffant. C'est vrai que ça n'arrête pas. Hein. Les cheveux sont très à la mode dans le... Bon, alors, question structure capillaire. Jean-Jacques Goldman, on peut pas dire qu'il a révolutionné le genre. Hein. C'est...
Non, non, je crois que effectivement, il en rit lui-même d'ailleurs. Hein. Récemment, parce que ça fait partie des choses qu'on ignore, mais il est toujours présent sur le terrain, il donne toujours des spectacles, des mini-concerts, ici ou là, pour des causes, des associations, etc. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il a chanté, il y avait un duo avec un humoriste qui lui disait, mais non, c'est pas possible, vous n'êtes pas Jean-Jacques Goldman, d'abord on l'aurait annoncé, etc. Et puis Jean-Jacques Goldman, il avait des cheveux.
Oui, oui, évidemment, et puis... Oui.
C'est vrai qu'il avait une vraie moumoute quand il a commencé, Jean-Jacques Goldman, et puis après, un dégradé...
Ça s'est dégradé, justement.
Ronan.
Oh, tendance fléchette.
Ah, bah écoutez.
Stand up, if you love the darts, lève-toi si tu aimes les fléchettes. Eh bien, au dernier soir de l'Empire, les Britanniques, en plein Brexit, réinstaurent un truc bien à eux, au même titre que le pudding, les chips au vinaigre ou la bière London Porter, le championnat du monde de fléchettes, qui est un prétexte absolu pour boire une bonne pinte.
Ah bah oui.
Les 64 meilleurs joueurs du monde de fléchettes vont, lors de cette compétition, rentrer leur bedaine de buveur de bière, invétéré, et bomber le torse pour montrer qu'ils sont les rois du jeu. Lève-toi si tu aimes les fléchettes, un air que tous connaissent, qu'ils viennent du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande ou d'Australie, autant de lieux où il y aurait, dixit les spécialistes de la fléchette, une vraie culture du supportisme et de la bière. L'avantage avec les fléchettes, c'est qu'on peut facilement s'identifier aux champions, à ces héros ordinaires, tout en gros bide et en tatouage, qui roulent en Ford Focus. D'ailleurs, le champion actuel est un Hollandais surnommé Supermenton, en raison d'un profil découpé comme une grosse théière. Vous savez, alors il vient d'empocher 2 millions de livres sterling tout de même en tournoi, hein, ce qui est pas mal. Et donc, une question demeure en suspens. Comment un passe-temps de soirée d'ivrogne et de ventre à bière peut-il devenir comme ça un sport qui fait plus d'audience que certains matchs de foot et qui est diffusé tout de même dans 132 pays?
Vous et Freddy Diego va nous donner la réponse.
Non, mais peut-être qu'il s'est recyclé dans les fléchettes, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il fait à Londres finalement, Jean-Jacques Goldman.
Il court, hein, ça, il a toujours couru, mais les fléchettes, c'est
maintenant. La fléchette est un sport.
Et alors, on l'imagine mal, mais alors voilà, je ne sais pas, parce que vous avez l'air de dire qu'un humoriste ne le reconnaissait pas récemment sur une scène. On l'imagine mal avec une bedaine remplie de bière, c'est pas son genre. Est-ce qu'il boit un peu, ce monsieur?
C'est vraiment pas son genre.
Avec modération, bien sûr, on n'incite pas à l'alcoolisme. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui peut se retrouver un peu torché le matin ou jamais?
Non, jamais.
Jamais. De l'eau minérale?
Toujours à l'eau minérale.
Bon, allez, grâce à Freddy Hidalgo, notre invité Jean-Jacques Goldman est saut tendance sur Sud Radio.
Olivier Monsens,
Ronan Châtelier,
Sud Radio,
c'est tendance.
Alors il y a ce livre, hein, 600 pages ou plus même, Freddy Hidalgo, Jean-Jacques Goldman, confidentiel chez l'Archipel. Alors je cite cette phrase, je l'extrais évidemment de son contexte. Débiteur de tubes à la tronçonneuse, violeur de tympan, queeneur de la bande FM, look nul, message zéro. Certains journalistes s'en sont pris parfois rudement à lui, surtout je dirais au milieu des années 80, quand voilà, son succès agaçait. Et alors vous-même, évidemment, jamais vous n'avez écrit ce genre de choses, mais vous le dites quand même, hein, même si vous êtes devenu un ami de Jean-Jacques Goldman, si vous lui avez consacré un magazine Paroles et Musique extrêmement pointu et prisé dans le métier, mais au début vous ne le kiffiez pas. Il a fallu du temps pour, enfin un peu de temps pour détecter l'homme derrière ces tubes agressifs, vous le dites vous-même.
Exactement, parce que il y a deux choses. Vous avez tout à fait raison, la presse parisienne, la grande presse, hein, ouais, hebdomadaire et quotidienne, lui est tombée dessus à bras raccourcis les 5-6 premières années de sa carrière. Et vous avez donné quelques exemples, mais il y a eu pire encore.
Ah,
hein.
Y a eu...
Ah bah oui, il y a la voix de, de Castran Dimanché.
Castran Dimanché, ah, j'aime bien celui-là. Mais en même temps, on voit un peu l'image.
Le chantre mou, etc. Bon, c'est pour dire qu'il n'a pas été aidé par la presse. Et la radio, en revanche, a compris tout de suite le potentiel extraordinaire qui se cachait derrière les chansons.
Mais vous, il a fallu un peu de temps.
Et moi, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu 2 albums, je le reconnais, parce que justement, j'étais agacé d'une part par ce côté... matraquage entre guillemets, hein, dont il n'était absolument pas responsable, hein, c'est simplement que les animateurs, les programmateurs avaient compris qu'il y avait quelque chose derrière. Et puis cette voix, surtout cette voix que je trouvais très criarde et que vraiment qui m'était
alors,
presque...
À propos de la voix, il semblerait que dans les sondages, il soit à peu près au même niveau qu'Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est le chanteur préféré des Français, quoi.
Oui, oui.
Pourquoi cette image de star préférée des Français?
Ben, en fait, il a été la personnalité préférée des Français depuis la disparition de l'abbé Pierre. Et avant même l'abbé Pierre, bon, c'est un journal, c'est le JDD, hein, qui fait ce sondage chaque année. Il était deuxième derrière l'abbé Pierre. Et alors pourquoi? Ben, je pense
et
que
donc,
c'est
loin
simplement...
devant Emmanuel Macron.
Ah là, oui, sûrement très très loin. Aujourd'hui, il est troisième derrière Omar Sy
et
Simone Veil.
Mais c'est
Veil.
Pas un peu l'absence, justement, le mystère, le fait que...
Maintenant, oui, mais il était déjà premier ou deuxième à l'époque où il chantait encore, où il ne s'était pas retiré. Et je pense que c'est sa discrétion, son humilité,
voilà, oui,
le fait qu'il est finalement, comme vous et moi, hein, quelqu'un d'ordinaire, alors que c'est une star au niveau de la chanson.
Et vous, ce qui vous a rapproché personnellement, c'est qu'en fait, il faut le dire quand même, hein, vous avez été, avec quelques-uns, l'âme d'un magazine Paroles et Musique, qui oui, est extrêmement pointu dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous, voilà, c'était pas podium ni OK. voulait. Enfin, c'est, voilà, ça se voulait se parler de la chanson, pas texte, parce que vous n'aimez pas cette expression, non. Mais enfin, voilà, en tout cas, la vraie chanson française. Et voilà, et lui-même a été très étonné qu'un jour vous ayez eu envie de lui consacrer quasiment un numéro presque intégral.
C'est le début de l'histoire, en fait, parce que vous le disiez, il était brocardé par la grande presse, hein, du Nouvel Obs à l'événement du jeudi, en passant par Libération, Le Parisien, etc. Et puis, en revanche, il y avait toute la presse jeune qui s'intéressait énormément à lui, qui lui consacrait des couvertures, des posters et tout. Et Paroles et Musique était un peu entre les deux, finalement. Et donc, la première fois que j'ai rencontré, il m'a avoué que jamais il n'aurait cru qu'un journal sérieux, entre guillemets, comme Paroles et Musique, s'intéresserait à quelqu'un comme lui. Parce que à ce moment-là, il m'a dit, moi, la presse pour jeunes, ça m'allait très bien. Et je cherchais rien d'autre à cette époque-là.
À suivre quand l'interview est bon, qu'il ne s'achète pas avec notre invité Fred Hidalgo pour parler de Jean-Jacques Goldman.
Sud Radio.
Olivier Monsens.
Ronan Châtelier.
C'est Tendance.
Chaque jour sur Sud Radio, bienvenue dans l'univers ineffable des tendances où l'on rigole bien aussi.
Et avec nous, Fred Hidalgo, Jean-Jacques Goldman, confidentiel, s'est paru chez L'Archipel. Bien avant le président normal, il y a eu le chanteur normal. L'un aurait échoué, l'autre a cartonné. L'un a fait un flop avec sa stratégie entre rose clair et rose foncé. L'autre a connu le succès avec l'album entre gris clair et gris foncé. Peut-être le président aurait-il dû oser le rouge en politique que l'autre a revendiqué en pochette. Signe qui pour l'un n'est jamais venu de la bourse et qui à l'autre lui permet d'y investir massivement en bourse, enfin en tout cas il pourrait. Il y a à tout le moins une chanson qui aurait pu être inspirée au chanteur par le président, non pas Au bout de mes rêves où il changeait la vie, mais Puisque tu pars. Parce que c'est vrai, c'est le chanteur normal. Quelqu'un me disait un jour, je me rappelle à la fin des années 80, une attachée de presse ou une animatrice radio, il est arrivé à la gare. Comme ça, avec sa petite valise, il n'avait pas d'attaché de presse justement, il était... Et personne ne l'embêtait, personne ne le remarquait presque.
Alors c'est ça le plus extraordinaire. Moi j'ai eu l'occasion de me balader avec lui tous les moyens de locomotion, à commencer par le métro. Et la première fois, c'est lui qui m'a proposé d'ailleurs de me raccompagner à Paris parce qu'il vivait à Montrouge à ce moment-là et il m'avait invité à déjeuner. Je pensais qu'il allait me raccompagner en voiture ou à moto, ce qui lui est arrivé.
Bah non, ça vous a coûté un ticket de métro.
Voilà, il m'a dit bah non, on prend le métro. Alors bon, ça m'a quand même pas mal étonné. Et je me suis, la première fois, j'ai passé mon temps à regarder les gens dans le wagon qui regardaient Jean-Jacques Goldman et je me mettais à leur place et je me disais forcément, il devait se dire ce gars-là ressemble au chanteur. Mais ça ne peut pas être lui, franchement. Une star comme Goldman, à l'époque, il cartonnait de manière extraordinaire. Et donc, personne ne venait l'embêter. Et puis, je me suis baladé pas mal de fois dans la rue aussi. Et chaque fois, c'est soit des petits signes comme ça, complices en passant, mais pas de demande d'autographe.
Il n'est pas dans un truc de pipolisation dingue. Hein.
Non, mais jamais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et alors, je me suis intéressé à sa musique, à ses textes, et même lui, il dit que il considère que les textes, ça joue pour le long terme, surtout, c'est ça, hein, que finalement, les chansons à texte sont des chansons qu'on retient sur le long terme.
Oui, c'est-à-dire que lui, sa théorie, c'est qu'une chanson fonctionne grâce à la mélodie, grâce à la musique.
Sur le coup.
Voilà, ouais. Sur le coup. Ça marche ou ça marche pas.
Ouais. Et là, il est très fort pour ça, en fait.
Voilà. Alors là, c'est le numéro un.
Le texte, c'est un peu moins son truc au début.
Et alors, voilà, oui, le texte, alors, il vient de la chanson anglo-saxonne, en fait. Hein. Et c'est un jour, lui, toutes ses idoles, ses références, c'était des Américains, des Anglais, etc. Un jour, c'était en 66, il voit Léo Ferré accompagné par le groupe Zoo. C'était à Lille où Jean-Jacques Goldman faisait ses études. Et puis là, il découvre la chanson française et il se dit, mais on peut mettre des paroles en français sur des musiques pareilles. Et donc, c'est là qu'il a découvert finalement que pour faire une grande chanson, qu'elle dure dans le temps, il fallait qu'il y ait un grand texte. Quoi. Pour qu'elle marche tout de suite, c'est la mélodie. Et pour que la chanson dure et s'inscrive dans la mémoire collective, il faut qu'il y ait un texte à la hauteur.
Il dit, mes textes s'adaptent à ce que dit la musique. Hein. Au fond, c'est un chanteur pop, quoi. C'est-à-dire, c'est à mi-chemin entre la chanson et la variété. Et c'est vrai que les tubes, lui, il ne trouve pas ça honteux. Il dit, et c'est page 120 dans votre livre, les tubes, j'ai toujours beaucoup aimé les tubes. Je ne trouve pas que Hey Joe soit la pire des chansons de Jimi Hendrix, ni Light My Fire, la pire des Doors, ni encore Avec le temps, la pire de Ferré. No Milk Today de Herman Hermits est une bonne chanson. Twist and Shout, Jealous Rock, j'aime bien. Je n'ai aucun mépris pour ces chansons-là. Et voilà, c'est peut-être ce caractère assumé du tube qui l'a peut-être rendu agaçant aux oreilles de certains rock critiques un peu trop voilà. Orthodoxes.
Bah exactement, orthodoxes, un peu marginaux ou élitistes, comme on veut. Quoi. Lui, il s'est dit que la chanson, une fois pour toutes, c'était un art populaire. Et qu'il fallait s'adresser aux gens pour essayer de les toucher, enfin le plus grand nombre d'entre eux. Que si c'est une chanson pour se faire plaisir dans sa salle de bain, c'est pas la peine de faire chanteur.
Pas de Claude Françoisisme, comme vous écrivez dans votre livre.
oui, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'au départ, beaucoup de gens l'ont classé aussi dans cette mouvance-là. Quoi,
Je connaissais pas le terme, le Claude Françoisisme.
Claude Françoisisme.
c'est pas très heureux d'ailleurs phonétiquement.
Ouais, mais il est pas de moi, il est de Jean-Jacques.
Oui, non, bah, bien sûr.
Et alors, à propos de trucs drôle, j'ai vu qu'il y avait une vraie rencontre avec Frédéric Dard. On croise plein de personnages dans votre livre, dont Frédéric Dard, hein, qui a mouillé la compresse, j'ai lu l'expression.
Voilà, exactement, c'était un des titres de ses
livres. Racontez-nous cette entrevue.
Frédéric Dard, c'est-à-dire que d'une part, j'ai eu la chance, moi, étant gamin, de le rencontrer, c'est-à-dire plus que de le rencontrer, puisque je lui ai écrit, j'étais admiratif, j'ai découvert ses livres à 14 ans, j'ai vraiment été bluffé par le style, et j'ai eu l'audace, l'inconscience, la bêtise, peut-être de lui écrire, au bon soin de son éditeur. Et puis trois mois après, il débarquait chez mes parents pour me voir. Il pensait que j'avais 18 ans, j'en avais à peine 15. Et donc, toute ma vie, ça a été Frédéric Dard. Bon, c'était quelqu'un d'important. Et un jour, j'en discute avec Jean-Jacques et puis je lui dis, si jamais toi, tu avais eu à demander un autographe à quelqu'un, parce qu'il m'avait déjà dit qu'il n'avait jamais demandé d'autographe à personne, mais qui ce serait, quoi, hypothèse d'école. Et il me dit, dans ce cas-là, il y a une seule personne, c'est Frédéric Dard. Et donc, je lui raconte mon histoire. Et puis, je me rends compte que non seulement il a exactement les mêmes appréciations que moi avec beaucoup de gens sur Frédéric Dard, le monstre littéraire qu'il était, la connivence entre le lecteur et entre l'auteur et le lecteur. Mais en plus, ça c'est les coïncidences de la vie, la mère de Jean-Jacques Goldman était copine d'école de la première femme de Frédéric Dard. Ouais. À Lyon.
Et à propos de parents, justement, et ça explique peut-être pourquoi il y a ce côté discret, ce côté normal, ce côté je la ramène pas. Puisque bon, alors vous racontez aussi votre vie avec la musique, avec vos magazines et avec Jean-Jacques Goldman. Hein, c'est pas une biographie stricto sensu, mais enfin vous rappelez quand même. Ses parents, forcément, ont dû Moïse et Ruth. Ils venaient de pays où la vie n'avait pas été simple. Ouais. Et leur ligne de conduite, c'était surtout assimiler, rentrer dans la masse, ne pas sortir de la file. Il faut dire qu'avec deux des trois enfants, Goldman, ils ont été servis quand même.
Oui, effectivement.
Mais enfin, voilà, en tout cas, ça explique que même s'il est devenu une star...
C'est exactement ça. Oui, c'est un souci de discrétion, d'humilité, de se fendre dans la masse, de s'intégrer et la fierté aussi de devenir français. Son père, donc, qui est arrivé de Pologne, a créé un réseau de résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale à Lyon. Sa mère, qui était un peu plus jeune, qui arrivait d'Allemagne, elle a été mise dans un camp de concentration du temps de Pétain. Et Jean-Jacques se demanda encore comment sa mère et ses parents, puisqu'ils étaient ensemble, ont pu s'en échapper. Et donc après, ils ont voulu rendre à la France ce qu'elle leur avait apporté. Et puis toute l'éducation consacrée à leurs enfants, c'était ça, quoi. Surtout, vous travaillez et puis vous faites le plus discret possible.
Il changeait la vie là-bas, au bout de nos rêves. Jean-Jacques Goldman est sous tendance presque autant que Sud Radio qu'il est tous les jours. Évidemment, on retrouve Fred Hidalgo dans un instant. Jean-Jacques Goldman confidentiel.
Sud Radio.
Olivier Monsens.
Ronan Châtelier.
C'est tendance.
Quand la musique est bonne, 100% de ses fans sont affirmatifs. Quand la musique est bonne, Goldman n'est jamais loin. Ni Fred Hidalgo d'ailleurs, âme des mythiques revues Paroles et Musique et Chorus, auteur de Jean-Jacques Goldman confidentiel aux éditions de l'Archipel et invité aujourd'hui de C'est tendance sur Sud Radio.
L'état d'esprit des jeunes est binaire. Hein. Pour eux, le monde est cool ou pas cool. Et quelle est donc cette philosophie, cette psychologie du cool formulée dans un livre « L'esprit cool, phénomène culturel ». Eh bien, l'idée, c'est d'émettre les bonnes vibrations comme des slogans publicitaires un peu intello. Vous savez, Lacoste, « Deviens ce que tu es », Nike, « Just do it », L'Oréal, « Parce que je le vaux bien ». C'est littéralement un bombardement de valeurs et de bons sentiment où la formule philo remplace le slogan sur le produit. Et est-ce qu'avec Jean-Jacques Goldman, justement, on ne serait pas dans une réappropriation un peu soft, parfois, des grandes idées de la philosophie ? Bref, en plein marketing du cool. Tintintintin ! Un peu dur hein, comme question.
Non, je comprends bien, d'autant plus que en 2001, lorsqu'il a sorti son album Chanson pour les pieds, il y a eu à nouveau une cabale de la presse parisienne où on a...
J'étais pas dedans.
Ouais. Non, mais je dis la presse, hein, je parle pas de la radio, où on a accusé Jean-Jacques Goldman finalement de faire du marketing avec l'art de ne pas en faire. Quoi, hein. Donc, de montrer une image cool, alors qu'en fait, ça aurait été un vrai manipulateur, etc.
Oui, parce qu'il faut rappeler que donc il voulait bien accorder une interview notamment aux Parisiens, enfin voilà. Aujourd'hui en France, pour autant qu'il ne soit pas
en couverture.
Après, il a exigé des lettres de motivation aussi pour avoir des interviews.
Oui, alors bon.
Expliquez-nous, c'est vrai que vous le racontez dans le livre, et quand on lit ça, on a beau avoir plein d'empathie, de sympathie naturelle pour Jean-Claude Goldman.
Ça nous stresse.
On se dit, tiens, non, mais c'est quand même. Alors la couverture, pourquoi pas, ok, je ne vais pas en rajouter, mais des lettres de motivation, c'est quand même.
Non, mais.
Est-ce que ça, c'est une petite erreur ?
Hypothèse. Non. Bon, d'abord, je dois dire que moi, en 30 ans de carrière, il m'a accordé toutes les interviews.
Oui.
Hein, non mais vous êtes sympa aussi. Parole c'est pas comme les autres.
Non, mais sans la moindre réserve, sans demander à relire quoi que ce soit, les photos qu'on voulait, sans demander à voir les photos. Bon, c'est déjà très très rare dans l'absolu. Et ensuite, bon, il a été échaudé, comme on en parlait tout à l'heure dans les années 80, par une certaine presse. Et donc, il a pris quelques précautions. Il s'est dit, si j'accorde une interview, j'aimerais bien relire l'entretien derrière. Pas du tout pour le modifier, mais simplement si au lieu de me faire naître en 51, comme c'est le cas, on indique 71 ou 49, bon ben au moins je pourrais rectifier ça quoi, et puis ce sera utile à tout le monde. Rien d'autre, hein, je vous l'assure.
On va s'écouter juste un morceau, parce que ce qu'il y a de bien avec Jean-Jacques Goldman, c'est qu'il y a toujours quand même de belles histoires. Et moi, je suis pas un fan, hein, personnellement, on peut aimer votre livre, parce que de nouveau, c'est une plongée dans une décennie quand même. Enfin, c'est surtout les années 80, puis 90 aussi. On retrouve aussi l'histoire de votre magazine, hein, Paroles et Musique, qui a quand même marqué. Et puis voilà, il y a des histoires. Moi, j'aime bien, quand je pense à Goldman, j'aime bien réécouter Là-bas, par exemple. Que de là-bas, voilà. Racontez-nous, on vient d'entendre, il y a Jean-Jacques Goldman et puis il y a une autre voix.
Oui, Sirima, qui était une jeune fille, elle avait 23 ans à l'époque, d'origine sri lankaise, et que Jean-Jacques avait découverte dans le métro, puisqu'elle chantait dans le métro à l'époque, c'était une voix fabuleuse. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il a écrit cette chanson, qu'il a eu besoin d'une deuxième voix, donc c'était un duo, il a pensé à Sirima, il lui a proposé d'enregistrer, et puis ça a été le succès, le tube que vous savez.
Pour cette fille, ça devait être dingue quand même, elle était dans le métro, et puis...
Elle passait du métro carrément sur toutes les grandes scènes, parce que dans la tournée qui a suivi, Jean-Jacques lui a demandé de venir aussi, donc c'était assez extraordinaire pour elle. Et puis surtout, tout de suite, les grands du métier, Aznavour lui a dit, mais je vais écrire pour vous, Nougaro aussi. Il y avait une carrière qui se profilait pour elle. Elle allait devenir une star, très certainement. Tous les gens du métier l'ont prédit. Et puis, il se trouve que malheureusement, très vite, elle a été assassinée, poignardée par son compagnon, qui lui-même était un musicien et qui n'admettait pas, qui était jaloux, tout simplement, de son succès, qui n'admettait pas que Sirima marche et pas lui.
Ah, c'est plein de mélodrames, ce livre. Et alors, Jean-Jacques Goldman a beaucoup écrit pour les autres aussi. Céline Dion, par exemple.
Oui.
Il lui a dit, oui, est-ce que je peux avoir ce petit truc poétique de ta musique ? C'est ça, en fait, c'est comme ça qu'il a...
Oui, mais en fait, il faut savoir que Jean-Jacques Goldman, lui, n'aurait jamais voulu être chanteur. Hein. Il ne s'est jamais rêvé en chanteur. Il adorait la musique, il avait déjà cet art inné quoi, de la mélodie, de la composition. Et il a voulu démarrer dans le métier en composant et en écrivant pour les autres.
Après avoir fait une école de commerce, comme quoi,
exactement.
Ça mène à tout. Tout mène à tout. Hein.
Et puis, bah, finalement, au départ, il a même proposé des chansons à Johnny Hallyday qui lui a refusé.
Ouais. Bien joué, il a accepté Johnny quand voilà. même. Et bien lui en a pris quand même, parce que c'est, vous le dites.
C'était
hein.
l'album Gang, et ça a été à ce moment-là la plus grosse vente de toute la carrière discographique de Johnny Hallyday. Bon, c'était L'Envie, Je t'attends, Laura, enfin toutes ces grandes chansons. Quoi.
Mais c'est vrai que Céline Dion, c'est une des rares stars à qui il a demandé. C'est-à-dire que, c'est pas voilà, les managers d'eux ou l'agent d'eux qui est venu demander à Jean-Jacques Goldman, faiseur de tubes, malgré lui, est-ce que tu peux pas me faire un album? Là, c'est lui qui est allé. Et
c'est
avec l'idée
fois.
De transformer un peu la voix, parce qu'il trouvait que, bon, évidemment, elle avait ce charisme, cette voix exceptionnelle, mais elle chantait un peu vieille chanteuse. Quoi.
Voilà, oui, exactement. Et Jean-Jacques a toujours été un fan absolu de la voix en général, hein, d'ailleurs, sa première idole, c'était Aretha Franklin. Et il s'est dit, voilà, j'ai vraiment envie d'écrire pour une voix pareille. Et dès que la rencontre a eu lieu, en studio, eh bien, il a recréé Céline Dion, carrément, pour ne pas dire qu'il l'a créée, parce qu'elle avait sa voix, évidemment, elle était là. Mais lui, il lui a appris, comme il me l'a expliqué, à déchanter. C'est-à-dire qu'elle chantait avec cette grande voix criarde, les gueularde québécoises, comme les appelle William Scheller.
Oui, oui, oui.
Et Jean-Jacques en a fait une véritable chanteuse.
Et alors, il y a quelque chose qui rend éminemment sympathique Jean-Jacques Goldman, c'est ce qu'il fait pour les enfoirés, hein, le rite, comme on dit, des enfoirés. Racontez un peu.
Oui, alors les enfoirés, c'est Coluche, donc à l'automne 85, hein, qui a cette idée. Et puis, il se dit que pour la lancer, pour la populariser, il lui faut une chanson. Et à ce moment-là, il a deux copains, c'est Jean-Jacques Goldman et Renaud. Il se dit, bah tiens, je vais aller d'abord trouver Jean-Jacques. Il lui dit, voilà, il me faut une chanson. Et Goldman lui dit, bah oui, bah, pas de problème. Il lui avait expliqué l'histoire des enfoirés. Et il lui dit, c'est pour quand? Et Coluche lui répond, c'est pour hier. En fait, la chanson a été écrite entre la fin 85 et début 86 et enregistrée quasiment 10 jours après. Quoi.
Il écrivait super vite, en fait.
Oui, il a toujours écrit très vite. Enfin, pas toutes les chansons, mais en général.
Il notait des trucs sur ses cahiers, c'est ça? Et puis après,
oui,
il apprenait. Hein.
Voilà, il a jamais arrêté de noter des petits bouts de phrases. Et puis, il a toujours joué de la musique. Donc, le jour où il a fallu allier les deux, je suis par exemple persuadé aujourd'hui que s'il devait sortir un nouvel album là dans 3 mois, il est parfaitement capable de le faire.
Il est prêt. Mais il ne veut pas. Enfin, on ne sait pas. Peut-être que vous avez des informations que nous n'avons pas. Dans cette normalité, encore une fois, dont on parle et que vous expliquez bien dans ce livre, il y a ce côté très mal à l'aise avec les fans. C'est-à-dire que contrairement
avec les femmes,
les fans, contrairement à Claude François dont on parlait tout à l'heure, effectivement, qui lui commandait presque des nuées de fans devant ses chambres d'hôtel et ses hôtels pour que ça bouge, pour se sentir bien. Ouais. Lui, non, il allait leur dire, mais arrêtez, ne restez pas là, c'est humiliant tant pour vous que pour moi. Il y a juste une fan,
oui,
rencontrée en 95, voilà. Avec laquelle ça s'est passé un peu autrement.
Voilà, qui se prénomme Nathalie. Et qui est devenue.
Elle avait 16 ans quand il l'a rencontrée.
Oui, 17 ans, je
17
crois,
ans,
exactement.
Oui,
oui. Et en fait,
peu, oui.
elle avait eu l'audace d'aller le voir dans sa loge, mais accompagnée de sa maman à elle.
Ouais. Et puis.
Et puis, bah,
puis
voilà.
Ça a dégénéré.
Ça a dégénéré. Il y a une relation épistolaire d'abord, parce que quand vous parlez des fans, bon, c'est un terme que Jean-Jacques Goldman déteste. Hein. Mm. Lui, il a toujours parlé des gens qu'il suivent. Ouais. Et même son public, il dit, je ne peux pas parler de mon public parce qu'il ne m'appartient pas. En fait, il a toujours eu une relation particulière épistolaire. C'est l'un des rares chanteurs que je connaisse qui est sur 30 ans répondu au courrier personnellement. Et donc il y a eu une relation épistolaire qui s'est instaurée, et puis au bout de 4-5 ans c'est allé un peu plus loin.
Il a attendu la majorité.
Voilà, non mais il y a eu un divorce qui est intervenu entre temps, c'est-à-dire en 97, et puis en 2001 il s'est marié avec Nathalie et ils se sont installés tous deux à Marseille, non pas dans un hôtel somptueux mais dans le petit appartement d'étudiant.
Oui, c'est ce que vous écrivez, il a plaqué son hôtel particulier à Saint-Sulpice pour...
Oh, il a dû le garder peut-être, non?
Pour aller vivre chichement à Marseille.
Oui, un hôtel particulier, effectivement, dans lequel il ne vivait pas, hein, je précise. Mais bon, quand on gagne beaucoup d'argent, et ça, il ne l'a jamais caché, et c'est effectivement un des artistes qui a gagné le plus d'argent en France, évidemment. Quand vous vendez de chacun de vos albums à plus d'1 million d'exemplaires...
Moi, je ne me rends pas compte. Hein.
Moi non plus. Mais en tout cas, c'est le seul cas dans l'histoire de la chanson francophone qu'un artiste ait vendu plus d'1 million d'exemplaires de chaque album. Bah, il faut bien placer cet argent quelque part. N'empêche que lui n'a jamais jamais mis en avant le moindre signe de richesse. Il a toujours vécu de la façon la plus simple.
Au niveau vestimentaire, en tout cas, c'est assez clair. Hein, voilà, on ne peut pas dire qu'il se fait habiller par les plus grands stylistes.
Et il a écrit un livre assez surprenant, « Les pères ont des enfants » avec le philosophe Alain Etchegoyen. Alors oui. Ça, c'est intéressant dans son parcours, si j'ose dire.
Oui, oui, parce que justement, on en vient au thème de l'argent. Il parlait notamment de l'héritage, voilà. Parce que lui, forcément, il va laisser une fortune immense.
Il a un côté redistributif, ouais, chez lui.
Voilà. Et il expliquait dans ce livre notamment que pour lui, les enfants n'avaient pas hérité comme ça automatiquement et que c'était leur rendre un très très mauvais service. Hein, il expliquait que le plus valorisant dans une vie, par exemple, c'est la première paye. Il dit avec la première paye que vous touchez, vous pouvez aller voir un spectacle, vous acheter une paire de chaussures, etc. Et il dit ça, je peux pas me permettre de priver mes enfants de ce plaisir-là, simplement parce qu'ils vont devenir des héritiers.
Du coup, il les a déshérités, quoi.
et en tout cas, il a écrit ce bouquin avec Alain Etchegoyen en 99, qui est un bouquin très, très intéressant sur l'autorité, l'autoritarisme, et puis les...
Un livre qu'on n'attendait pas.
Les pères, hein, pas les mères, justement, les pères ont des enfants.
Ils sont nombreux, ceux qui se sont plantés à notre quiz, vous savez, et qui ne se sont jamais remis. Le quiz de Fred Hidalgo, on y croit, c'est tout de suite sur Sud Radio.
Ça va continuer, alors.
Sud Radio.
Olivier Monsens.
Ronan Châtelier.
C'est tendance.
Le quiz In et Out, à l'issue de celui-ci et en fonction de ses résultats. Notre invité Fred Hidalgo va-t-il devenir le père de Paris ou se transformer en René, qui a bien compté pour notre ami Céline Dion et évidemment Jean-Jacques Goldman. On va le savoir dans un instant.
Quelle chanson est dédiée à Daniela Messia?
Daniel Messia, ouais. C'est Famille. Famille, c'est une chanson très importante pour son public. Et Daniel Messia, c'est une chanteuse qui a écrit notamment De la main gauche, une très très belle chanson qui a repris
c'est
aussi
gauchère.
Le paradis des musiciens et qui malheureusement, un peu comme Siri Mac on évoquait tout à l'heure, a eu un destin tragique puisque la maladie lui est tombée dessus de façon fulgurante. C'était une des très grandes voix de la chanson et Jean-Jacques lui avait écrit une chanson qui s'appelait Le temps des enfants. Et effectivement, sur le disque, alors elle est décédée en juin 85, je crois. Et sur le disque, Famille est effectivement dédiée à Daniel Messia.
Ah, il est incollable. En général, nos invités répondent à une question là, du tac au tac, mais ils ne font pas 4 minutes sur la...
Mais excusez-moi.
Ah non, mais c'est parfait, c'est l'éclairage. Et d'ailleurs, un autre éclairage, parce qu'évidemment, vous connaissez la réponse. Mais voilà, ce petit quiz, c'est pour nous remettre les idées en place, un petit récap comme ça. Pourquoi le nom de Gang pour l'album donc, qu'il a écrit, on en parlait tout à l'heure pour Johnny Hallyday, est-ce que c'est pour ce côté un peu voyou qu'on veut essayer de donner à Johnny qui quand même venait de se faire écrire un album par Michel Berger qui n'est pas le plus voyou, même si Michel Berger avait écrit un album qui s'appelait Voyou Voyou d'ailleurs.
Oui, exact.
Pourquoi Gang alors pour Johnny?
Peut-être parce qu'il l'a enregistré à l'album Gang aussi. c'est vrai que ça a été une nouvelle équipe pour Johnny Hallyday. C'est Michel Berger d'ailleurs qui a conseillé à Johnny de contacter Jean-Jacques. Et voilà comment ça s'est fait.
J'ai lu que c'était le nom du studio où a été enregistré l'album.
Oui.
Voilà, c'est la réponse. Le nom du studio.
Il a emprunté quelques détours.
Oui,
mais
quand vous ne savez pas, vous pouvez le dire.
Vous n'êtes pas obligé de faire semblant.
Ah non, mais je croyais vous l'avoir dit.
Quelle chanson commence par ces paroles? Je n'ai pas mérité de jouer du rock'n'roll, mais ghetto, mes idées ne sont pas homologuées.
C'est minoritaire. Ah.
Il a estimé que le rock était de droite à un moment.
Oui, ça il nous l'avait expliqué. Il disait que finalement, les artistes les plus conformistes étaient les rockers, qui étaient décorés, parlaient des Beatles, par la reine d'Angleterre, les Américains, etc. Bon, à un moment donné, il s'est dit finalement, oui, les plus conformistes qui soient, c'est les rockers.
Et parce que lui, il avait une vraie culture de gauche, en fait.
Oui, c'est par ses parents, on en parlait tout à l'heure. Et puis c'est vrai qu'ils étaient quasiment inscrits au Parti communiste.
Alors qu'il n'a jamais voulu chanter, lui, à la fête de Lima.
Non, jamais. Bon, Il a écrit une chanson.
Il a écrit un album qui s'appelait Rouge.
Voilà.
Bon, quand même. Bon, c'est, voilà, c'est subliminal, si on peut dire, mais.
Exactement. Alors, juste pour expliquer en deux mots, Rouge, c'est parce qu'il avait une tendresse énorme pour l'histoire des communistes qui se sont battus dans la résistance, etc. Et en même temps, comme on le disait tout à l'heure aussi, pour lui, toutes les idéologies au début des années 80 étaient complètement obsolètes. Et donc, il ne s'est jamais engagé personnellement dans la politique.
Qui est Jay Kapler ? Alors, je le prononce un peu à l'américaine, mais je ne devrais pas, en fait.
C'est son frère, Robert Goldman.
Voilà, exactement.
Voilà.
Qui a signé, c'est ça, en fait
C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand Jean-Jacques Goldman s'est mis à écrire des chansons pour les autres et qu'il ne voulait pas leur retirer une part du succès éventuel, lui-même avait pris un pseudonyme, c'était Sam Brouski à l'époque, et c'est comme ça qu'il écrit pour Patricia Cass avec ce pseudonyme, en se disant, si je signe Jean-Jacques Goldman, on va parler uniquement de la chanson de Goldman écrite pour Patricia Cass, alors que là, on ne saura pas qui c'est, et c'est effectivement Patricia Cass qui a normalement tiré les marrons du feu. Et son frère, à un moment donné, s'est lancé dans la composition et lui aussi a pris ce pseudonyme J. Kapler.
Et puis, question piège, quel est le titre du premier album de Jean-Jacques Goldman ?
Oui, ça pourrait être une question piège. Il n'y en a pas. Les deux premiers albums ne portent
J'avais
pas de...
J'avais tout fait pour vous savonner la planche, hein, quand même.
Juste Fred Hidalgo, quand même, donc voilà, vous en parlez beaucoup dans ce livre passionnant, hein, Jean-Jacques Goldman, confidentiel chez Fred Hidalgo. C'est l'histoire de Jean-Jacques Goldman, mais surtout de votre relation aussi à cet homme, à cet artiste, et à votre revue, enfin vos revues, notamment Parole et Musique. Il faut rappeler un peu, voilà, ce qu'était Chorus, Parole et Musique, parce que c'était vraiment important pour toute une génération.
Oui, c'était des journaux considérés comme les organes de référence de la chanson francophone. Je n'invente rien. L'AFP, à chaque fois qu'il y avait un nouveau numéro de Chorus, se disait, voilà,
au sommet. C'est Paroles et Musique.
Ensuite, oui, qui a pris ça a duré entre 1980 et 2009. Et l'AFP, à chaque fois, disait, voilà, dans la Bible de la chanson, dans ce numéro, il y a ceci et cela. Vous mettez l'accent sur quelque chose d'important. J'ai pas voulu écrire de biographie de Jean-Jacques Goldman.
C'est pas une biographie.
Parce que je me suis dit que j'apporterais rien de plus si c'était une biographie neutre, factuelle, tandis que si je racontais notre histoire, c'est-à-dire celle de ces journaux, à travers notre relation avec Jean-Jacques Goldman, puisque...
Et quelques fax.
Oui, alors des fax, des coups de fil, des lettres, etc. Je pouvais non seulement retracer l'histoire de Jean-Jacques, mais vue de l'intérieur, de façon un peu confidentielle et privée parfois, mais aussi retracer l'évolution de la chanson, finalement des années 50, de la naissance de Jean-Jacques, de Charles Trenet, jusqu'à aujourd'hui.
Et alors, c'est quoi sa vie aujourd'hui? On a parlé de pré-retraite, etc. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qu'il fabrique?
Oui, en fait, il a arrêté en 2002. Son dernier album date de 2001. Il a fait une tournée, un tour ensemble jusqu'à fin décembre 2002. Puis là, il a décidé de faire un break. Et bon, finalement, le break a duré plus longtemps que prévu.
Est-ce que c'est un vrai départ ou est-ce que c'est comme Lionel Jospin qui nous dit « je me retire de la vie politique » puis qui revient, puis qui repart
Non, c'est un vrai départ. Alors, en 2002, il a réuni ses musiciens et il leur a dit « bon, je vais faire un break, donc si vous avez des opportunités de travailler en studio avec d'autres artistes, surtout acceptez-les ». Mais lui-même ne pensait pas arrêter définitivement. Et c'est uniquement 2 ans plus tard, il a donné un mini-concert en hommage à Jean-Louis Foulquier au Francophonie de La Rochelle. C'était le départ de Jean-Jacques. Et là, il a rappelé ses musiciens pour monter ce concert. Et il leur a dit, écoutez, finalement, ça va durer plus longtemps que prévu. Donc, en laissant entendre que peut-être il ne reviendrait pas.
Il a juste envie de se mettre au vert, quoi.
Voilà. Alors, il a continué à écrire.
Puis, il y a les enfants. Il y a de nouveau une deuxième famille. On a parlé de sa jeune épouse qui est très forte en algorithme. Donc, elle doit avoir beaucoup de travail pour le moment. Mais bon, voilà, il y a des enfants qui sont arrivés aussi. Voilà, peut-être que ça lui donne envie de les voir grandir.
L'histoire, en fait, c'est qu'il a...
Le couplet habituel.
Non, mais c'est exactement ça. Il a tout connu dans le monde de la musique, tous les succès, les plus grandes salles. Il a battu tous les records de fréquentation, de vente de disques, etc. Et puis, à un moment donné, en rencontrant Nathalie, il s'est dit « la vie me donne une deuxième chance » parce qu'il estimait, d'où ce bouquin « Les pères ont des enfants », il estimait qu'il avait, disons, loupé, entre guillemets, l'éducation de ses premiers enfants, les 3 premiers, parce qu'il était toujours en studio, sur les routes, en tournée, etc. Et quand il a eu l'occasion donc de refaire sa vie, il a eu 3 petites filles depuis, il s'est dit que il avait la possibilité de se comporter en vrai père de famille et que c'était une chance à ne pas manquer. En plus, il faut quand même expliquer que ses deux grands copains, trois grands copains avec Coluche, Balavoine et Michel Berger, sont partis très jeunes. Et il s'est dit que peut-être qu'il fallait pas...
Fallait freiner un peu. Hein. Eh bien, merci pour ces explications. Super livre de Fred Hidalgo dont on vient de parler. Jean-Jacques Goldman, confidentiel aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup.
Fait quelques secondes encore avec nous puisque vous allez découvrir nos fringales finales.
Olivier Monsens,
Ronan Châtelier,
Sud Radio.
C'est tendance.
Alors très vite, découvrez l'Algarve au Portugal et bientôt Lisbonne à bord d'un corbillard. Et oui, c'est désormais possible.
Comme voyage.
Oui, les vacanciers peuvent découvrir la vie nocturne de l'Algarve, région très touristique, s'il en est, à bord d'un corbillard d'occasion, racheté par deux copains sur un coup de tête. Voilà, si ça vous dit, vous pouvez aller sur www.reapertours.pt. Et voilà, c'est une autre façon de voyager finalement.
Il y a une autre façon de voyager qui est les Français et l'infidélité féminine à l'heure des sites de rencontres.
Oui, c'est une forme de voyage.
Combien de Françaises ont déjà été infidèles une fois au cours de leur vie? 33%.
Bon.
Donc, combien de Françaises peuvent tromper leur partenaire actuel, veulent tromper leur partenaire actuel? 23%, une Française sur 5. Donc, les chiffres sont assez durs.
Voilà, on souhaite en tout cas beaucoup de fidélité à Jean-Jacques Goldman, désormais. Merci encore, Fred Hidalgo.
Merci à vous.
Sud Radio. Sud Radio. Olivier Monsens.
Ronan Châtelier.
C'est tendance.
C'est tendance.
Ah, et contrairement à Jean-Jacques Goldman, demain nous serons en total look, perruque et corset pour homme.
Ah.
Scandale.
Et peut-être aussi bottes de haute chausse.
Ah, qui sait.
Cuissarde.
On va parler de tout cela avec une exposition visible aux arts décoratifs.
Bref, ne changez rien.
Et belle soirée sur Sud Radio.
Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser.